Vous écoutez
RMC.
Il est 8h, excellent réveil à tous sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La France contre la Pologne, le foot, l'Euro ce soir 18h, le match des Bleus. Et ça tombe bien, il y a du soleil, vous entendrez, les cafés se préparent à ce troisième match des Bleus à l'Euro pour tenter de décrocher la première place de leur groupe. L'autre match de la soirée, et ce sera dans la foulée, le premier des trois débats des favoris à 5 jours des législatives.
Et justement, le programme, les candidats, l'accord avec le RN, grande explication en direct d'Éric Ciotti, le toujours officiellement président des Républicains, menacé d'expulsion de son propre parti. Il est donc mon invité dans une demi-heure, 8h30 sur RMC BFM TV.
Et cette information RMC qu'on vous révèle ce matin, une enquête ouverte pour corruption dans le port de Saint-Tropez, des pots de vin pour avoir le droit de stationner dans le port.
On va enfin avoir un parfum d'été ce soir.
Oui, parce que le match de foot, c'est à 18h. France-Pologne, donc à l'heure de l'apéro, en terrasse, au soleil, parce qu'il y en a enfin, après le boulot. Va pas falloir traîner pour trouver une place devant un écran à Bordeaux. C'est chez vous qu'il va faire le plus chaud, Pierre Bourgès.
Pas question de rater le match pour Baptiste. Il travaille aujourd'hui. L'horaire ne l'arrange pas vraiment, mais il va se débrouiller.
On va raccourcir la pause du midi, de façon à prioriser les tâches les plus importantes. Et à 17h45, être prêt devant la Marseillaise. Avec la citronnade et les maillots sur les épaules.
L'objectif pour lui, c'est de sortir de ces phases de poule avec le sourire.
Il y a la première place à aller chercher pour la suite de la compétition. Et puis, ce qui est intéressant, c'est au mois de juin, l'équipe de France, c'est la fête, c'est les apéros, c'est le soleil.
Même constat pour son ami Alexandre.
C'est l'occasion d'ouvrir quelques bières en fin de journée. À 18h, c'est idéal. Donc, on peut partager un petit moment collectif tous ensemble.
D'autant qu'avec le retour du soleil, Maxime aimerait bien trouver une place en terrasse pour regarder le match.
C'est
le
cocktail gagnant en terrasse, copains. Le soleil, l'été qui arrive. Ça serait bonheur.
Mais il va falloir s'y prendre tôt, prévient Gaëtan Adban, patron de bar, parce que la météo à Bordeaux aujourd'hui c'est
32 degrés, c'est simple, donc il y aura beaucoup de monde, on sera staffé comme pour un match à 21h, ce sera pareil du coup, c'est un match de la France quoi, donc il faut qu'on assure.
Lui attend 400 personnes dans son bar, le double d'une journée habituelle.
Voilà, 400 personnes donc à la citronnade dans ce bar de Bordeaux, même si on en doute. Et 11 000 supporters à Dortmund pour encourager les Bleus qui ont pour objectif de terminer premier de leur groupe. Ça va dépendre du résultat des Pays-Bas qui joueront à la même heure, 18h contre l'Autriche. Fabrice Hawkins, vous êtes en direct avec nous ce matin pour RMC. Vous couvrez l'Euro au plus près des Bleus. D'abord, question Fabrice, question que tout le monde se pose ce matin. Est-ce que Kylian Mbappé va jouer ?
Oui, Kylian Mbappé devrait bien jouer. L'attaquant des Bleus sera peut-être même titulaire un peu plus d'une semaine après sa fracture du nez. Depuis 5 jours, il a repris l'entraînement et hier, il a encore fait toute la séance avec ses coéquipiers, toujours avec sa protection sur le visage. L'hématome s'est résorbé, il s'habitue au masque, rassure Didier Deschamps qui peut compter sur son buteur. Pour l'instant, le capitaine de l'équipe de France est à l'origine du seul but des Bleus depuis le début de la compétition. Et pour ce troisième et dernier match avant la phase finale, le sélectionneur devrait faire quelques changements dans son 11 de départ. Avec la victoire des Espagnols hier, la France est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, mais ce soir, il faut gagner en marquant si possible le plus de buts possible pour finir en tête du groupe. C'est le principal intérêt du match, explique le milieu N'Golo Kanté, et pour cause, si l'équipe de France finit premier, les joueurs de Didier Deschamps ne croiseront pas avant la finale des poids lourds comme l'Allemagne, le Portugal ou encore l'Espagne.
Les Bleus déjà qualifiés pour les huitièmes, sans même jouer avec les résultats d'hier soir, à savoir la victoire de l'Espagne 1-0 contre l'Albanie et le match nul un partout arraché in extremis avec un but à la 98e minute de l'Italie pour crucifier la Croatie. Vous savez que RMC se délocalise à chaque match des Bleus chez un joueur de l'équipe de France et ce soir ce sera Fougères en Bretagne, Rotten sans flamme, l'after donc depuis Fougères en direct du club où tout a commencé pour le milieu des Bleus, Eduardo Camavinga. L'autre match ce soir, et ce sera dans la foulée, ce sera le match politique à 5 jours du premier tour des législatives avec le premier des trois débats sur TF1 entre les trois camps favoris des sondages. Cyprien Pezril du service politique et RMC, il sera question d'impôts, de pouvoir d'achat, de retraite, d'immigration, de sécurité. Ce soir, l'enjeu est pris très au sérieux par les différents partis. Ils l'ont longuement préparé ce débat.
Oui, moment même capital prévoit l'insoumis Manuel Bompard puisque c'est une campagne qui se déroule avant tout dans les médias. Alors
leur outre des réunions quotidiennes avec les autres chefs de l'Alliance de gauche pour établir une stratégie. Depuis plusieurs jours, il regarde, il analyse des débats auxquels Jordan Bardella et Gabriel Attal ont déjà participé. Le Premier ministre et le candidat du Rassemblement national, sans doute plus habitués à l'exercice, ils affûtent leurs armes. Le chef du gouvernement devrait renvoyer les deux autres dos à dos, les renoncements du RN, l'Alliance baroque de la gauche. Jordan Bardella, lui, devrait cibler le bilan de la Macronie, les affrontements qui en réalité ont déjà commencé. Jean-Luc Mélenchon doit venir, c'est lui le véritable candidat de la gauche pour Matignon. On lançait Gabriel Attal et Jordan Bardella. Le nouveau Front Populaire, contrairement aux autres, a décidé de ne pas désigner en amont de candidat au poste de Premier ministre. Alors les chefs des partis de gauche ont mis en place un roulement. Ils participeront chacun leur tour aux autres débats.
Emmanuel Macron a donné le ton, en quelque sorte, hier dans un podcast en affirmant que les programmes des extrêmes, ce sont ces mots, mènent à la guerre civile, c'est le terme qu'il a employé, suscitant des réactions. Toujours là pour mettre le feu, dit Jean-Luc Mélenchon. Un président ne devrait pas dire ça, conclut Jordan Bardella. De nouvelles incarcérations ce matin en Nouvelle-Calédonie. Deux militants indépendantistes viennent d'être placés en détention provisoire, mais à Nouméa cette fois, au contraire des sept militants qui avaient été arrêtés la semaine dernière et incarcérés en métropole. La situation est à nouveau tendue en Nouvelle-Calédonie depuis l'interpellation de ces militants soupçonnés d'être à l'origine des émeutes. À 8h06 sur RMC, c'est une information qu'on vous révèle, que vous nous avez révélé ce matin, Amélie Rosic, une enquête ouverte pour corruption autour du port de Saint-Tropez. Vous nous révélez des versements de pots de vin pour obtenir une place pour amarrer son bateau dans le port.
Oui, c'est un ex-agent portuaire qui dénonce ces versements de pots de vin en plus du prix de la place au port. Si on veut jeter l'ancre à Saint-Tropez, il a accepté de témoigner pour RMC. Il est au micro d'Ameline Lafchin.
Ça négocie et ensuite on confirme la place. En dessous de 1000 euros d'espèce, ils prennent même pas le bateau. Là, il y a un bateau qui dit avoir donné 5000 euros pour 3 jours et ça peut monter à 10-15 000 euros demandés pour rentrer au port. Après, ils cherchent toujours à savoir de quelle origine ils sont, donc si c'est des Arabes, si c'est des Russes, si c'est des Américains, parce que en fonction de la nationalité, ils vont demander plus ou moins.
Selon nos informations, la police enquête sur des agents de la capitainerie et de la mairie. Des auditions ont déjà été conduites. C'est le procureur de la République de Draguignan qui est saisi de l'affaire. Alors, qui est impliqué? Où va l'argent? À qui profite-t-il? C'est à ces questions que l'enquête, évidemment, devra répondre. De son côté, la municipalité se dit choquée par ces soupçons totalement infondés. Je cite, le cabinet de la maire explique que le système de réservation au port sur Internet rendrait le contournement impossible.
Une quinzaine de pompiers restent mobilisés ce matin dans les Alpes-Maritimes, vallée de la Vésubie, encore touchée par les intempéries. C'était hier soir, de fortes crues. Elles ont emporté des ponts de substitution qui avaient été érigés il y a 4 ans. Après, souvenez-vous, la tempête Alex qui avait fait de gros dégâts dans la région. Bref, ça recommence. Thierry Inglardi, l'adjoint au maire à Saint-Martin-Vésubie, est excédé.
Ce qui est énervant en affaire, c'est qu'avec 50 mm d'eau, c'est-à-dire pratiquement rien, tout est détruit. Donc ça, c'est insupportable. Là, maintenant, au bout de 4 ans, c'est plus possible que nous, on reste comme ça. Les gens, les habitants en marre. On perd tous les habitants petit à petit. Imaginez-vous habiter ici où chaque fois qu'il pleut, je ne parle pas de tempête, hein, chaque fois qu'il pleut, toutes les routes ont disparu. Voilà. Donc c'est carrément insupportable. Voilà. Parce que partout, les ouvrages définitifs sont terminés. On n'a absolument aucun problème.
Et puis c'est un des événements du jour, c'est aujourd'hui que sort sur Amazon Prime le documentaire consacré à Céline Dion,
évidemment,
dans lequel la chanteuse aborde son état de santé et le syndrome de l'homme raide, maladie neurologique rare dont elle souffre. Voilà, un petit peu de Céline au passage, comme ça vous l'avez en tête toute la journée, vous allez m'en remercier.
Ouais, d'abord ça, merci beaucoup. Non mais c'est bien ça, à 8h09, ça nous lance dans la journée,
sorte, voilà.
C'est formidable. Et puis franchement, j'ai hâte de le regarder.
Ce documentaire, ah, Amazon Prime.
Ouais, ouais, non, j'ai hâte de le regarder, je trouve que y a à la fois une émotion, une puissance. On a envie de l'entendre nous raconter et dire.
Elle était tournée pendant le Covid et dans lequel elle se confie manifestement, Céline Dion.
On a hâte de le regarder. Merci pour ce journal. Et c'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h09 et vous êtes bien sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
À suivre, le parti pris de l'écologiste Sandrine Rousseau du nouveau Front Populaire. Elle répond à Emmanuel Macron, le président de la République, qui estime que les programmes du RN et de LFI mènent à la guerre civile. La réponse de Sandrine Rousseau, c'est dans un instant.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h13 et vous êtes bien sur RMC.
Le parti pris.
Bonjour Sandrine Rousseau.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes députée sortante écologiste, vous faites partie du nouveau Front Populaire et vous venez répondre ce matin aux propos d'Emmanuel Macron. Il dit que l'on va vers une guerre civile si le RN ou LFI accédait au pouvoir. Est-ce que vous estimez, comme lui, qu'il y a un risque ou est-ce qu'il joue avec le feu ?
Non seulement il joue avec le feu, mais il a une inconséquence politique qui commence à suffire en fait. Enfin, là, il a fait cette dissolution dans la foulée des européennes et après une défaite de son camp et pour manifestement ne pas accepter cette défaite, il dissout l'Assemblée nationale. Maintenant, il nous promet la guerre civile. Là, ce qui est aux portes du pouvoir, c'est l'extrême droite. Et en fait, je rappelle quand même que le programme de l'extrême droite, c'est un programme qui exclut une partie des Français et Françaises. Là, on l'a vu avec les binationaux hier. Moi, je voudrais vraiment qu'on
cette annonce de Jordan Bardella que les postes les plus stratégiques, il évoque notamment la question des affaires étrangères ou du nucléaire, ne seraient réservés qu'aux seuls nationaux. C'est-à-dire, il faudrait non seulement avoir la nationalité française, mais n'avoir que celle-là et non pas binationale, franco, autre chose.
Et ça met la suspicion sur toutes les personnes binationales.
La vérité, c'est que c'est déjà le cas. C'est non. Ce qu'a répondu notamment une partie du Quai d'Orsay en disant qu'un certain nombre de postes sont déjà réservés aux seuls Français.
Mais en fait, sur les postes stratégiques, il y a, quand une personne est nommée, un check de la DGSI, c'est-à-dire qu'on regarde un peu le parcours, le cursus, etc. des personnes par la DGSI. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que oui, évidemment, il y a des postes stratégiques qu'il faut protéger. C'est évident des influences étrangères. Mais la DGSI le fait. Et c'est pas le fait d'être national ou binational qui est la suspicion. C'est l'enquête complète sur une personne. Et par ailleurs,
que ce soit pas systématiquement dû à avoir une autre nationalité.
Et en plus, le Rassemblement National est un des partis où il y a eu le plus de suspicions d'influence étrangère. Donc vraiment, en fait, tout cela est complètement lunaire. Donc moi, je voudrais qu'on se mette vraiment en tête qu'il y a trois enjeux. Le premier enjeu, là, dimanche, c'est de faire obstacle à un programme qui est un programme xénophobe et raciste. Et je le dis d'autant plus que là se libère sur tous les marchés actuellement une parole raciste débridée et que
vous l'avez constaté.
Dans ma circonscription, où tous les bénévoles qui sont racisés n'ont pas un tractage sans entendre « rentre chez toi ». Enfin, je veux dire, donc là, il y a la question qui nous est posée, et j'entends aussi toutes les personnes sur les marchés qui nous disent « non, mais je voterai pas pour vous à cause de Mélenchon, etc. » Moi, je vous dis, là, dimanche, se joue la solidarité vis-à-vis des personnes en France qui sont racisées et qui vont subir en premier le racisme, et qui vont vraiment être face à une haine qu'ils n'ont jamais connue.
Sandrine Rousseau, ceux qui vous disent qu'effectivement, votre alliance avec Jean-Luc Mélenchon, en quelque sorte, vous décrédibilise. On a vu notamment Raphaël Glucksmann, les images de ses tractages où il se faisait insulter de traître par un certain nombre de ses anciens électeurs, et notamment sur la question de l'antisémitisme. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi de la part de LFI, qui sont désormais vos alliés, une forme là aussi de séparation entre certains et d'autres en raison, là pour le coup, de la religion ?
Non, il n'y a pas eu de séparation en raison de la religion. Il y a eu des propos qui n'étaient pas corrects.
Quand on dit, par exemple, de Raphaël Glucksmann qu'il est le candidat sioniste, certains des candidats qui sont officiellement aujourd'hui
qui ne sont pas acceptables. Voilà, je le pose. Maintenant,
celle-là ne serait pas acceptable, les autres ne seraient pas acceptables, mais vraiment pas acceptables.
Non, mais ce qui se joue là, c'est vraiment le fait que dimanche, il va falloir que nous ayons une solidarité nationale pour faire barrage à un projet raciste politique.
Est-ce que ça va jusqu'au désistement ? C'est-à-dire, est-ce que vous dites qu'en cas de triangulaire, qui est l'un des enjeux qui va se poser dès dimanche soir...
Je vous réponds juste après. Donc là, dimanche, il joue ça. Après, le Front Populaire propose un programme en urgence pour lutter contre le sentiment de relégation, d'abandon et d'humiliation. Et après, il nous faut faire une cohésion sociale pour nous permettre d'avoir un avenir serein. C'est ça qui se joue avec le Front Populaire. Donc là, on est dans un moment de... Enfin, vraiment historique, où j'en appelle à la solidarité pour protéger les plus vulnérables. C'est cela qu'il faut faire dimanche. Et oui, je comprends qu'on puisse ne pas être d'accord avec un tel ou un tel. Nous sommes les seuls, aujourd'hui, à être en mesure de faire barrage à ce Rassemblement national.
Je vous repose la question du deuxième tour, la question des triangulaires. En cas de triangulaire, où le RN serait en position de l'emporter, est-ce que vous dites que si le candidat aux couleurs du nouveau Front Populaire arrive troisième, mais est en mesure de se maintenir pour le second tour, est-ce que vous les invitez à se retirer de manière à appeler à voter pour, par exemple, le candidat macroniste qui serait arrivé devant ?
Tout député RN supplémentaire est un danger supplémentaire. Donc oui, moi j'appelle à ce qu'il y ait un désistement si nous arrivons troisième. Mais ça, c'est un discours qui nous met déjà en troisième position. Là, aujourd'hui, la question se pose davantage à la majorité sortante, c'est-à-dire à Renaissance. Que vont-ils faire? Parce que dans beaucoup de circonscriptions,
la question ils vont de être la même
en troisième
manière,
position. Quelle sera leur position là-dessus? Seront-ils républicains ou pas? Et j'attends avec impatience leur réponse, parce que je ne suis pas certaine
Sandrine Rousseau,
qu'elle soit claire.
Vous disiez que justement, vous étiez ceux qui ne divisaient pas les Français entre eux. Quand vous regardez ce qui s'est passé hier soir sur Twitter, Sophia Chikirou, qui est une des proches parmi les proches de Jean-Luc Mélenchon, elle est candidate d'ailleurs LFI, elle a répondu à un candidat qui est soutenu par François Ruffin, elle a dit « comme la corde soutient le pendu ». Cette unité de façade que vous dites vivre, elle va durer combien de temps?
Non, c'est pas une unité de façade, on a un programme, on a un socle de propositions
Comment quelqu'un comme Sophia Chikirou ne se retient pas d'écrire une chose pareille sur François Ruffin?
J'aurais préféré qu'elle ne l'écrive pas. Je vais vous dire, enfin, vraiment, il n'y a pas de sujet.
Non, mais on a l'impression que chaque fois, vous dites, bon, ça, c'est pas vraiment grave. Bon, et puis il y a ça, ça, c'est pas vraiment grave.
Attendez, je n'approuve pas.
Il y a quand même une candidate qui dit d'un autre qui est censé être de la même famille politique que c'est la corde qui soutient le pendu.
Non, en l'occurrence, c'était Hendrick Davy dont il était question. Hendrick Davy qui est un candidat qui n'a pas été investi.
Mais qui se réjouissait du soutien de François Ruffin.
Absolument, absolument. Voilà, est-ce que j'approuve ce tweet? Non, je ne l'approuve pas. Maintenant, la question, est-ce que la politique française, là, va se jouer sur un tweet? Non. Est-ce que la vie de Français... Oui, mais là, il s'agit de la vie de Français.
Que chaque jour, il y a des sortes de provocations, un coup de Jean-Luc Mélenchon,
moi, je vais vous dire,
un coup de Sophie Chikrou.
J'ai des personnes qui tremblent face à moi, mais qui tremblent en disant, mais on a besoin que vous gagniez parce que sinon c'est notre vie qui va changer. Je parle par exemple des femmes de ménage de l'Assemblée nationale qui sont binationales et qui tremblent aujourd'hui en disant, mais si vous ne gagnez pas, eh bien nous allons subir dans nos vies l'arrivée du Rassemblement national. C'est de cela dont il s'agit. Et vraiment, je voudrais que nous prenions conscience qu'il y a des personnes qui sont dans une vulnérabilité, dans une angoisse aujourd'hui de l'arrivée du Rassemblement national, et que c'est la solidarité vis-à-vis d'elle que nous devons avoir et montrer un autre visage de la France. La France n'est pas une île qui n'aurait jamais été traversée de personnes.
Mais j'ai envie de vous dire,
Sandrine Rousseau, d'autres
vous
pays.
Devriez le dire ça à Sophia Chikirou.
Ça n'est pas une île.
C'est pas ici ou à moi qu'il faut dire.
Eh ben, je le dis à Sophia Chikirou qui sait extrêmement bien le barrage qu'il faut faire. La France n'est pas une île.
Visiblement, ça lui paraît pas un enjeu suffisamment important pour apaiser les choses au sein de son propre parti.
L'histoire de la France est traversée de personnes qui viennent d'autres pays. Nous sommes enrichis de cette histoire. Il y a un Français sur trois qui a un grand-parent qui est de nationalité, qui est né de nationalité étrangère. Où est-ce qu'on s'imagine que la France est monolithique, qu'elle est une île assaillie par des étrangers? Tout cela, ce sont en fait des sentiments de faiblesse et une espèce de peur qui est irrationnelle. Aujourd'hui, la France est forte, et la France est forte de sa mixité et de sa multitude. Et je voudrais que nous protégions toutes les personnes qui ont des couleurs de peau, qui vont les exposer probablement à des violences policières, probablement à des violences de paroles racistes, partout où elles peuvent se déployer, et que c'est pour la protection de ces personnes que nous nous levons le matin. En tous les cas, c'est pour la protection de ces personnes que moi je fais campagne aujourd'hui.
Merci Sandrine Rousseau d'être venue défendre votre point de vue ce matin, votre parti pris. Vous êtes députée sortante écologiste et vous faites donc partie du nouveau Front Populaire. Merci à vous. 8h22.
Merci.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Et bonjour à tous.
Et Arnaud Demanche est là avec
Comment
nous.
Comment ça va
Arnaud.
En ce début de guerre civile?
Parce que c'est la guerre civile. Emmanuel Macron l'a dit, les programmes des extrêmes nous mèneront à la guerre civile.
Le gars, il est à deux doigts de nous réciter du Rambo, quoi.
Vous savez, Madame de Malherbe, pour gagner la guerre, il faut devenir la guerre. Vous avez stocké des munitions, vous êtes entraîné à ramper sous la boue dans les barbelés, vous avez fait le plein de conserves, ça va être la guerre.
Eh ben, c'est gentil d'avoir provoqué cette situation, Monsieur le Président. Alors le gars, il pense que ça va être la guerre civile s'il dissout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dissout. Je comprends pas. Il y a trois jours, sans la dissolution, ça aurait été la chienlit. Maintenant, on risque la guerre civile. C'est allé très vite, quand même, entre les deux. Et moi, si j'avais passé 7 ans à l'Élysée et que le résultat de mon taf, c'est un risque de guerre civile, je me ferais discret. Je la ramènerais pas trop. En attendant, ce soir, c'est le grand débat. Attal, Bardella, Bompard.
C'est le grand débat. Attal, Bompard, Bardella. C'est le plan à trois.
c'est le plan à 3.
C'est le plan à 3.
Mais Manuel Bompard, Manuel Bompard n'était pas tellement désiré dans ce trouble. Attal et Bardella, ils voulaient Mélenchon. Tu m'étonnes, ça leur servait d'avoir l'épouvantail en chef. Attal, il a dû appeler France 2. Allô, dites, vous avez prévu qui comme grosse personnalité de gauche? Jospin? Ah non, lui, il est sympa. Les gens vont être tentés de voter pour lui. Non, je peux pas avoir un stalinien antisémite à la place. Est-ce qu'il peut manger un bébé en direct aussi? Le gars, il va se ramener avec les corps de Lénine ou Mao. Vous savez, ils sont embaumés. Donc, un coup de micro-ondes. On les dégèle pour le débat. Et le tour est joué. LFI, j'ai l'impression que c'est devenu dans la tête des gens le FN des années 90, quoi. Vous savez ce qu'il faudrait aux insoumis? C'est dédiaboliser. Séduire les électeurs. Marine Le Pen l'a fait. Ça marche super bien. Tu prends, par exemple, Ercilia Soudet, et tu l'envoies chez une spécialiste de la séduction, Karine Le Marchand.
Évidemment.
Salut Ercilia.
Bonjour Karine.
Bon alors, Ercilia, tu te rends bien compte que c'est pas en ricanant des massacres du 7 octobre que tu vas charmer les électeurs?
Oh ben oui, c'est vrai, maintenant je vais parler des problèmes des ouvriers. Oui, les ouvriers. Alors comme ça, on est au chômage.
Bon, il y a encore du boulot, hein. Je suis pas sûr que ça fonctionne.
Cette séance de coaching
c'est compliqué, mais oui,
exceptionnelle.
Il faut faire l'émission,
Arnaud, François Hollande a été filmé en train de descendre une bière cul sec pendant sa campagne.
Ouais, il voit l'état de la gauche, il se bourre la gueule. Il s'est sifflé son demi-bière cul sec dans un club de rugby. C'est-à-dire que pour s'intégrer là-bas, il avait le choix, soit boire une bière, soit aller jouer au rugby et tenter de faire un plaquage à un sosie de Sébastien Chabal. Voilà, il a pris la bière. Bien et sûr. D'un trait, hein, Léa Salamé a deux doigts de larguer Raphaël Glucksmann après avoir vu la descente de l'ancien président. Hollande se lâche. Hein. Dans trois jours, c'est rail de coke en pleine campagne. Gaz hilarant pour séduire les jeunes. On va le retrouver chez Hanouna à demander des nouilles dans le slip pour draguer les électeurs de Bardella. Il le fera en serrant les poings. Allez François, pense à la France.
Le youtubeur musculation Thibaut InShape s'est dit prêt à devenir ministre des sports.
Et oui, il se dit prêt. Charles Magnin, lui, se dit prêt à épouser Scarlett Johansson. C'est-à-dire, on ne sait pas vraiment si tout ça est efficace.
Un sacrifice pour
il est prêt.
Ça nous ferait un youtubeur musculation en ministre. Ça devient fou, cette campagne. Ça devient n'importe quoi. On a du mal à imaginer un truc encore plus extravagant. Vous imaginez, je ne sais pas, un ancien youtubeur Call of Duty d'extrême droite et nul en débat qui deviendrait Premier ministre à 28 ans. Ce serait ridicule. Qui peut imaginer un truc pareil? Thibaut in shape. Ministre, ça craint. Avant, on avait des ministres qui avaient des noms de ministres. On avait Dominique Galouzeau de Villepin. Mais là, les diplomates qui feront les présentations au G7. Monsieur Poutine, monsieur joueur du grenier, monsieur Biden, monsieur Furious Jumper. Des vrais noms. Je me demande ce que ça donnerait à un gouvernement de youtubeurs. On aurait le bouseux à l'agriculture, Poisson Fécond, ministre de la pêche, Maëva Guénam à la culture,
évidemment.
Parce qu'elle le dit elle-même, elle est très culturée. Et puis, évidemment, Norman à la jeunesse.
Et on a évidemment hâte de voir ce nouveau gouvernement. Il est 8h26. Merci
8h26.
Arnaud. Dans un instant, mon invité, c'est Éric Ciotti. Officiellement, il est encore président du RN, mais il n'y a plus grand monde dans le parti derrière. De LR. Oui, bah, vous voyez, j'avais un petit peu... Mais c'est difficile aussi de passer de Arnaud Demanche à Éric Ciotti. On y va dans un instant. Je vais me remettre très sérieux, tout à fait d'équerre. À tout de suite. Ça se passe sur RMC, BFM TV.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Éric Ciotti.
Bonjour.
Beaucoup de questions à vous poser et en commençant par savoir comment je vous présente. Parce que officiellement, il me semble que vous êtes toujours président des Républicains, président du parti. On est bien d'accord.
Juridiquement, vous avez raison.
Juridiquement, j'ai raison. Après, toute la question, c'est avec quelle troupe le 11 juin 2024, vous avez donc annoncé une alliance avec le Rassemblement National. Un nouveau bureau politique vous a été demandé par les membres des Républicains pour officialiser votre éviction du parti. Vous leur avez répondu quoi?
Écoutez, nous regardons les termes de cette convocation, mais là n'est pas l'essentiel. Vous dites avec quelle troupe? Avec les militants, avec une immense majorité de militants, avec les Français, dans une démarche inédite, c'est vrai, j'en conviens, qui rompt avec des codes anciens, je pense totalement désuets, qui empêchaient la droite de s'unir, alors que la gauche s'unissait avec le pire de l'extrême gauche, représenté par M. Mélenchon
c'est
et ses amis,
C'est donc un modèle pour vous de s'être associé au pire.
C'est une nouvelle étape. Ah non,
si je reprends vos mots,
je ne m'associe pas au pire. C'est la gauche, c'est l'extrême gauche qui représente le pire. Nous, on a vécu sous des oukases, sous une forme de mur qui a été érigé par la gauche d'ailleurs, et qui empêchait tous les patriotes, tous ceux qui aiment la France, de se réunir. Eh bien, ce que la gauche a fait, nous, nous le faisons aujourd'hui, et nous le faisons avec responsabilité et avec sérénité et avec espérance.
On va y revenir, on va revenir sur le fond, mais je vous repose quand même la question, puisque plusieurs ténors du parti vous ont demandé d'organiser un bureau politique. Vous n'avez donc, si je comprends bien, pas répondu, pas donné suite.
Je vais leur répondre, j'ai jusqu'à demain pour leur répondre. Nous répondrons juridiquement à ces interrogations, mais
enfin, au moment où on parle, vous n'avez pas pris votre décision de convoquer, oui ou non, ce bureau politique.
On est dans une situation extrêmement grave pour le pays. Le président de la République évoque les mots de guerre civile. On est à la veille.
Bien, Éric Ciotti, mais c'est important aussi de comprendre
On est à la veille d'une immense alternance.
Avouez qu'il y a eu une forme de confusion.
On est à la veille d'une immense alternance. Beaucoup de mes collègues sortants LR sont prisonniers de cet appareil qui leur a contraints à passer des alliances avec la Macronie. Et on nous parle de débats juridiques à 48 heures du premier tour. Est-ce que tout ça est sérieux? Est-ce que ces gens parlent de la France? Est-ce qu'ils regardent l'avenir? Est-ce qu'ils sont prêts à se retrousser les manches en n'espérant pas le chaos? Parce que parmi j'en ai parlé avec eux.
Ces gens dont vous parlez, c'était vos amis, hein, oui, 10 jours. C'était Laurent Wauquiez, c'était...
Oui, mais ils espèrent le chaos. C'est pour ça qu'ils bougent pas. Ils se disent...
Laurent Wauquiez, il espère le chaos.
Il fait partie de ceux qui espèrent le chaos.
C'est une stratégie.
Pour mieux rebondir après. Moi, je n'espère pas le chaos. Moi, je veux le meilleur pour mon pays. Je suis un homme de droite. Rien dans le programme dont nous avons débattu et discuté avec Jordan Bardella me choque. Rien n'est contraire avec ceux que j'ai défendus depuis des années. Vous en êtes souvent le témoin pour m'avoir invité à de nombreuses reprises. Donc aujourd'hui, unissons nos forces, il y a deux blocs. Il y a un immense danger d'extrême gauche que M. Mélenchon et ses amis arrivent à Matignon. Le seul moyen pour faire face à ce bloc d'extrême gauche qui ferait basculer notre pays dans un autre cadre, je ne suis plus sûr que ça serait vraiment une démocratie, eh bien pour faire face à ce bloc, il n'y a qu'un vote utile. C'est le vote pour la coalition nationale que nous formons avec Jordan Bardella, la coalition des droites. Autre vote sera, je le dis, un vote inutile.
On va y revenir dans un instant.
Si on ne veut pas M. Mélenchon, il faut voter pour les candidats de notre alliance.
Vote inutile et vote perdu si l'on vote pour les LR, canal historique, si je puis me permettre. Rien ne me choque dans le programme de Jordan Bardella. Ils veulent le chaos, dites-vous, à propos d'un Laurent Wauquiez. Il y a beaucoup de choses que vous venez de dire et on va y revenir point par point. Mais d'abord, vous l'avez vous-même évoqué d'ailleurs, ce mot « guerre civile ». C'est la menace qui plane, d'après Emmanuel Macron, si le programme des extrêmes était au pouvoir. RN et LFI accroissent la conflictualité et la guerre civile. Est-ce que, en effet, vous pensez qu'il y a un risque de guerre civile, Éric Ciotti?
J'ai l'impression que c'est un souhait de la part d'Emmanuel Macron. Plus qu'un constat, plus qu'une prévision. C'est un souhait, c'est une stratégie, c'est la stratégie de la peur. Il a souvent mobilisé et convoqué la stratégie de la peur. Il a fait à l'international, en affichant la possibilité d'envoyer des troupes françaises en Ukraine contre tous les avis internationaux. Mais il a voulu semer la peur. Et là, à nouveau, il installe ce climat de peur. Ce n'est pas responsable. Quand on est chef de l'État, on est garant des intérêts supérieurs de la nation et on est garant de la cohésion de la nation. Qui a installé des ferments de division violents dans notre société?
Lesquels?
On voit ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. C'est inédit. 9 morts déjà, encore un cette nuit. On voit ce qui s'est passé dans les émeutes urbaines. Donc cette société française, elle est de plus en plus fragilisée par les incohérences, les divisions qu'a installé Emmanuel Macron. Alors de grâce, qu'il ne vienne pas aujourd'hui donner des leçons. Jamais il n'y a eu autant de tensions dans notre pays. La crise des Gilets jaunes avec Emmanuel Macron, les émeutes urbaines, la Nouvelle-Calédonie, l'embrasse des banlieues qui aujourd'hui ne sont plus tenues. Donc soyons sérieux, et évitons de faire peur aux Français.
Marine Le Pen elle-même a dit qu'elle était assez lucide sur le fait qu'il y aurait sans doute des émeutes dans les jours qui suivent l'accession éventuelle du RN au pouvoir. Ça, pour le coup, c'est pas jeter de l'huile sur le feu que de le dire. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de lucidité du coup, de la part du président de la République ?
On a face à nous des groupuscules violents d'extrême gauche qui appellent, on l'a vu, notamment au travers de certains de leurs candidats, à des actions violentes. On
a vu des groupuscules d'extrême gauche, mais pardon, il y a aussi des militants proches du RN, on l'a vu, qui viennent d'ailleurs d'être jugés en comparution immédiate, qui, le soir des européennes face à la victoire du RN, se sont sentis en quelque sorte débridés et lançaient dans la rue, après avoir violenté des personnes homosexuelles, on va pouvoir tranquillement casser du PD. Une forme de guerre civile.
Ils ont été condamnés. Heureusement, naturellement, nous condamnons tout ce type de déclarations insupportables, inacceptables.
Quand vous parlez des militants qui se débrider d'un côté, est-ce qu'il n'y en a pas de l'autre aussi ?
Il y a toujours des idiots un peu partout. Nous abordons cette phase avec beaucoup de responsabilité, de sérénité, de respect de l'état du droit. Quand je vois les soulèvements de la terre qui appellent à des actions physiques,
associations,
à des actions violentes,
écolo-violentes, notamment au moment des bassines.
Contrairement à ce qu'avait dit Monsieur Darmanin, ils sont toujours là et ils prennent des actions violentes, ils attaquent des policiers. Donc, abordons ce débat avec sérénité. Ce n'est pas la peine de rajouter de l'huile sur le feu, comme le fait Monsieur Macron à des fins. On le voit bien quel est l'objectif derrière. C'est de gagner un électorat. Donc, c'est une stratégie électorale. On ne joue pas le pays au dé pour une stratégie électorale.
Éric Ciotti, au-delà du mot même de guerre civile, Emmanuel Macron évoque, je cite, le passé conflictuel en France. Il dit la France est déjà déchirée entre protestants et catholiques. C'est une référence à peine voilée à la nuit de la Saint-Barthélemy, nuit atroce à Paris. Est-ce qu'il parle au fond de guerre civile ou est-ce qu'il prédit une forme de guerre de religion ?
Je crois que tout ça, sincèrement, est ridicule. Voilà. Aujourd'hui, moi, j'appelle à ce que nous nous mettions au travail dans la coalition pour redresser le pays. Les Français ont envie de ce changement. Ils mesurent l'impuissance et les dangers, d'ailleurs, que conduit cette impuissance depuis 2012, depuis l'élection de Monsieur Hollande. Le pays a décroché. Il est en déclassement. Nos enfants, aujourd'hui, sont dans un système éducatif qui ne fonctionne plus. On n'est plus soigné à l'hôpital. Le pouvoir d'achat des Français est aujourd'hui en berne. Il y a de la violence dans la rue. 1000 agressions gratuites par jour, c'est-à-dire près de une
donc
par,
pour vous, au fond,
par minute.
Ce chaos,
il y a des
déjà,
records d'immigration. Donc le chaos, naturellement, les Français le mesurent. Pourquoi cette coalition aujourd'hui bénéficie de ce très large soutien que je sens de plus en plus fort sur le terrain ? Parce qu'ils ont enfin envie de changement.
Alors vous parlez de coalition.
Avec l'impuissance.
On va parler aussi de la manière dont vous pourriez ou non exercer le pouvoir en cas de victoire. En cas de majorité relative, est-ce que vous pourriez imaginer gouverner avec une coalition plus large, c'est-à-dire qui inclurait vos anciens amis de LR qui aujourd'hui rompent avec vous? C'est-à-dire, vous avez évoqué à l'instant la stratégie du chaos d'un Laurent Wauquiez. Est-ce que vous continuez malgré tout à parler avec lui, ou est-ce que vous aviez évoqué avant même cette rupture l'idée que si les RN ont presque la majorité, mais pas tout à fait, est-ce que vous pensez qu'il y a certains qui ne vous ont pas pour l'instant suivi, qui vous suivraient alors ?
Sans doute. La main sera tendue. Il faudra choisir entre trois voies. Soit le bloc gauche-extrême-gauche, soit finalement la forme de statu quo que veut installer M. Macron, parce que là aussi...
Non mais ma question, elle est assez précise.
M. Macron veut qu'il n'y ait pas de
majorité.
Il veut qu'il n'y ait pas de majorité.
Elle est assez précise.
Pour continuer ces espèces de tambouilles.
Est-ce que pour faire une sorte de... Vous parlez sans arrêt d'une coalition. Jordan Bardella lui-même parle d'un gouvernement d'union nationale. Pour ça, il faudrait trouver des alliés de circonstance. Est-ce que vos anciens amis LR, qui ne vous ont pas suivi avant les élections, pourraient vous suivre après ?
Je pense, pour certains, mais il faudra leur poser la question. Mais moi, je me bats pour que nous ayons la malle.
J'imagine que vous leur posez ces questions. On a découvert que vous étiez capable de décider des choses un peu dans votre coin, en secret. J'imagine que vous leur parlez, vous avez leur numéro.
Je leur parle et ils me parlent. Mais moi, je me bats pour que nous ayons la majorité absolue. Et je vous le dis, nous aurons la majorité absolue. Cette question, elle ne se posera pas, parce que je sens les Français désireux de donner leur chance à ceux qui veulent redresser le pays. Enfin, voilà, on est dans une situation catastrophique. Eh bien, demain, je leur dis, ayez le courage, n'ayez pas peur, n'écoutez pas tous ces Cassandres. Nous sommes une équipe responsable, avec un programme responsable, équilibré. et nous allons travailler pour l'intérêt du pays.
Vous dites rien ne me choque. Rien ne me choque dans le programme de Jordan Bardella. Cette question des binationaux qui, depuis hier, fait beaucoup réagir. Ne retenir pour les postes dits stratégiques de l'État que les seuls nationaux, c'est-à-dire ceux qui ont une double nationalité, en seraient exclus. Ça vous choque pas ?
Ça me choque absolument pas. C'est dans l'intérêt supérieur du pays. C'est ce qui se fait aux États-Unis, pour la CIA notamment, mais pour des agences de sécurité. En France, d'ailleurs, pour certains postes sensibles, il y a déjà un criblage pour l'habilitation.
Un criblage, oui, mais qui ne repose pas sur la seule question de la nationalité.
Au secret défense, voilà, sur les questions, sur les postes stratégiques. Eh bien, demain, nous l'élargirons à la question de la double nationalité. L'exemple qu'a cité Jordan Bardella est assez révélateur. Est-ce que vous imaginez qu'un franco-russe puisse être demain dans un haut poste de responsabilité dans un service de renseignement? Ça relève du bon sens. On parle de quoi? On parle d'une dizaine d'emplois stratégiques.
Une dizaine, c'est vraiment une poignée, donc.
C'est ce qui a été dit, donc je vois bien les amalgames qui sont faits là aussi, mais nous assumons de garantir d'abord la sécurité des Français. C'est un principe de réalité, je dirais de bon sens, qui peut sincèrement s'en émouvoir, qu'on protège la nation, qu'on établisse en matière de sécurité nationale un principe, allez, assez simple, un principe de précaution.
Éric Ciotti, ce serait aussi le retour de votre loi, la loi Ciotti, qui était un dispositif qui prévoyait, en cas de trop d'absentéisme scolaire, non justifié, trop fréquent, une convocation des parents, un avertissement, et même la suspension des allocations. Ça a été appliqué entre 2010 et 2013. Il y a 472 familles qui ont été, à l'époque, concernées. Aujourd'hui, c'est quoi l'objectif? C'est de remettre les enfants à l'école?
Très précis, il y a 472 suspensions d'allocations familiales qui avaient été prononcées, mais il y a près de 100 000 élèves qui étaient retournés sur les bancs de l'école et qui n'avaient pas été...
Donc vous vous dites que votre loi les a découragés de
C'était l'objectif de la loi.
C'était
une loi équilibrée. Monsieur Hollande l'a abrogée en janvier 2013. Monsieur Macron a toujours refusé de la réinstaller. C'est un principe de bon sens, équilibre entre droit et devoir. Nous accompagnons les parents et notamment les familles monoparentales dans le cas d'un contrat de responsabilité parentale qui a lui aussi été supprimé, et nous sanctionnons celles qui ne respectaient pas leurs devoirs qui sont inscrits dans le code civil.
Donc, suspension,
et notamment le principe d'obligation scolaire.
Suspension partielle ou complète des allocations familiales pour les parents d'enfants trop absents. Je précise d'ailleurs que depuis, le nombre d'absences a explosé puisqu'il était autour de 2,1% au moment de votre loi. Il est aujourd'hui à 5,4% l'année dernière et 7% d'absentéisme dans le secondaire.
Vous soulignez que c'est un enjeu majeur, qu'on a abandonné cette question, mais on va élargir la possibilité de suspendre les allocations aux parents d'enfants délinquants récidivistes. On va s'attaquer dans le plan d'urgence, parce que hier, cela a été très clairement dit par Jordan Bardella, il y a les mesures d'urgence, et dans les mesures d'urgence, il y a notamment ces actions sur la délinquance des mineurs, il y a l'augmentation des places,
des placements pour les mineurs délinquants. Est-ce qu'il faut, au-delà des allocations, est-ce qu'il faut condamner pour une forme de complicité les parents? Prenons le tragique exemple de cet enfant violé, enfant de 12 ans, jeune fille violée, semble-t-il en raison de sa religion juive, par deux mineurs de 13 ans. Est-ce que ces deux mineurs, est-ce qu'il faut aller rechercher d'autres complicités, d'autres formes de responsabilité?
En tout cas, lorsque cela intervient en récidive, oui. Et moi, je pense que dès le premier délit commis par un mineur, les parents doivent être contraints à un plan, je dirais, de redressement, de suivi de leur enfant.
Donc pas
ça, c'était l'objet d'une loi que j'avais déposée il y a une dizaine d'années. Et si ce plan n'est pas respecté,
et le dernier
parents,
d'une fratrie de 4 enfants, il n'y a pas de père dans le paysage, la mère est seule, elle était, semble-t-il, elle-même victime de son fils qui l'a frappée, d'après les témoignages. On fait quoi? On va en plus condamner cette femme?
C'est à la justice de le dire. Il faut qu'il y ait cet outil juridique. Il y a des parents qui sont victimes, peut-être dans le cas que vous citez, donc il ne faut pas généraliser, mais il faut qu'il y ait un outil juridique qui oblige les parents à accompagner leurs enfants.
Est-ce qu'il faut aussi aller chercher le père ? Vous savez qu'Emmanuel Macron a évoqué le devoir aussi des pères.
On parle de tous les parents. C'est dans le code civil, ça existe aujourd'hui. Il suffit de faire appliquer la loi. Il y a un principe, c'est l'autorité parentale. Si elle n'est pas respectée, il faut l'appliquer. Mais on aura un enjeu majeur parce que la délinquance des mineurs, comme la sécurité en général, doivent être des priorités du futur gouvernement. Il faudra plus de places dans des centres éducatifs fermés. On nous les avait promis, ils n'ont pas été faits. Il faudra des places dans des établissements publics de la défense, tenus par des anciens militaires, pour placer des mineurs délinquants. Ça existe dans la loi. Elle a été également abandonnée. Tout
Après,
cela, nous pouvons
moyens,
le faire.
Éric Ciotti, oui, vous dites que là, vous voulez là, un on pas centre dans des éducatif fermé par département. Aujourd'hui, il y en a 52 en France, ça veut dire que vous voulez quasiment le doubler.
Oui, à minima. Places sur les centres de rétention pour expulser les étrangers. Mais oui, le coût, il est très modeste par rapport aux enjeux sociétaux, par rapport à la puissance de la violence aujourd'hui que l'on constate partout.
Et précisément, Éric Ciotti, vous dites encore une fois que rien ne vous choque dans ce programme. J'ai repris votre propre programme lorsque vous étiez candidat à la primaire de la droite. Et votre objectif numéro un, c'était de faire des économies.
Oui, vous demandiez le reste.
À supprimer des fonctionnaires, vous demandiez à aller plus loin même que le projet de réforme à l'époque des retraites, vous demandiez à passer carrément à 65 ans contre 64 dans la dernière réforme. Et là, vous vous retrouvez à faire une coalition avec un parti qui dit hier que dès l'automne, certains pourront partir à 60 ans. Vous en êtes où là-dessus ?
Alors, je vois bien que vous fixez, vous et vos confrères, sur ce sujet uniquement. D'abord, notre priorité...
Non, c'était notre un de vos priorité, enjeux et c'était une de vos priorités. J'ai repris vraiment vos
Notre
vos,
priorité, vos elle est totalement partagée, c'est de diminuer les dépenses publiques. Monsieur Macron les a portées quasiment... pas quasiment, les apporter au niveau record en Europe. C'est en France qu'on dépense le plus d'argent public. Et malheureusement, on voit l'inefficacité de ces dépenses. Nos services publics fonctionnent de plus en plus mal. L'éducation, la justice, l'hôpital qui est en crise. Donc plus on dépense, moins on a de services
publics. J'ai compris sur les dépenses, mais sur la retraite, vous êtes toujours sur l'idée d'une retraite à 65 ans ?
Vous parlez d'économie. Je vous dis où on va les trouver. Il y a presque 500 agences de l'État. On va en supprimer. Un exemple, on va supprimer les ARS. On va réorganiser les services de l'État.
Les agences régionales.
Est-ce qu'il est normal qu'il y ait 40% des agents hospitaliers qui soient des agents administratifs ? Il y a des sources d'économies gigantesques, rien que dans la réforme de l'État. On estime pas loin de 10 milliards d'euros les gains potentiels si on fait ces réformes. On peut aller plus loin. C'est pas dans le programme, mais personnellement, ça me choquerait pas. J'ai évoqué la suppression potentielle des régions qui sont sans doute aujourd'hui l'échelon territorial le moins utile et celui qui est le moins proche des gens.
Les très grandes régions, hein,
contrairement aux mairies, aux maires, aux communes et aux départements. Les idées d'économie, elles sont
vous
là.
Vous n'avez pas répondu, Éric Ciotti, sur la question des retraites.
Vous êtes
toujours favorable à la retraite à 65 ans.
J'y viens sur les retraites. Sur les retraites, il y a une mesure qui est dans le programme d'urgence, qui est définitive et qui est arrêtée. C'est faire en sorte que ceux qui ont commencé à travailler très jeunes,
avant
20 ans, qui ont 40 annuités, puissent partir à 60 ans. Vous savez, cette mesure, nous l'avons portée au niveau des Républicains. Elle venait d'ailleurs de M. Pradier. Nous l'avons débattue pendant la réforme des retraites. Cette amélioration de ce qu'on appelait les carrières longues, ceux qui ont travaillé très dur, souvent des ouvriers, qui ont commencé à travailler très très tôt, et il n'est pas illégitime.
Vous avez donc renoncé, Éric Ciotti, à la retraite à 65 ans.
Et d'ailleurs, là-dessus, nous avons soutenu ce programme. Donc, la seule disposition, elle est là. Pour le reste, il a été très clairement dit par Jordan Bardella que nous verrons. Vous savez, quand il y a un accord...
Donc, vous ne renoncez pas à faire changer d'avis Jordan Bardella sur la retraite.
On n'est pas, je ne suis pas similaire au Rassemblement National. Donc, ce sont des points de vue
et donc,
qui se réunissent.
Vous pourriez les faire évoluer sur cette question de l'âge de départ à la retraite.
Il y a une plateforme de gouvernement sur laquelle nous sommes d'accord, sur les grands principes, remettre de l'ordre dans les comptes, remettre de l'ordre dans la rue, moins d'immigration, plus de pouvoir d'achat et moins d'impôts. Ce matin, vous aviez sur votre antenne le président du Cercle des fiscalistes. Il a tenu un propos très mesuré, beaucoup plus mesuré que certains journalistes qui qui sont totalement dans l'excès. On a vu l'IFRAP qui a chiffré le programme aujourd'hui du Rassemblement national et de notre coalition. C'est autour de 8 milliards d'euros. Ces 8 milliards d'euros, on va les trouver en faisant économies sur l'immigration, sur la fraude sociale.
Ciotti, j'ai bien compris aussi que sur les retraites, vous gardiez vos convictions et que vous espériez faire évoluer le RN.
Certains ont évoqué 100 milliards d'euros. C'est une fake news totale. Donc arrêtons de mentir aux Français, arrêtons de leur faire peur et portons cette alternance.
Merci Éric Ciotti d'être venu répondre à mes questions, toujours officiellement donc président des Républicains. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.